Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Malgré ce froid intense, nous allons réchauffer vos cœurs ce matin pendant les deux prochaines heures. Prenez-vous un bon café, un chocolat chaud si vous êtes à la maison, si vous êtes au bureau, installez-vous confortablement. Et si vous êtes en voiture, dans votre camion, on vous accompagne pendant les deux prochaines heures. On a pas mal de sujets tout à l'heure, en deuxième heure d'émission. J'ai une belle surprise pour vous. Ça se peut d'ailleurs qu'on soit en Facebook Live là-dessus pour que vous nous voyez en direct. Je vais recevoir un musicien qui a réussi un changement de vie formidable. Il est parti de Montréal. Il est allé s'installer aux Îles-de-la-Madeleine. Et il est aujourd'hui propriétaire d'un restaurant aux Îles, un restaurant qui a beaucoup de succès. Peut-être vous le connaissez, le restaurant Le Vent du Large, où il peut mettre en pratique ses travaux, ses talents de musicien. Alors, on va le voir tout à l'heure, bien sûr, puis on va lui parler, puis il va nous raconter comment qu'on arrive à faire un changement de vie réussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y songent en ce moment. Vous y pensez peut-être, vous vous dites, mon Dieu, fait tellement froid, je peux pas croire que je vais mourir dans ce fret. Il y a des gens qui pensent aller ailleurs, en voyage, essayer autre chose, c'est sortir de la boîte. Ça, c'est important, je vous le dis souvent, sortir du cadre, sortir de la boîte, faire d'autres choses, tu sais. Tu as pas pensé faire ça? Ben, fais-le donc voir. D'un coup, ça marche. Alors, on aura cette discussion-là tout à l'heure avec François Gay. Mais en première heure d'émission, je voulais revenir sur ce qui a fait pas mal discuter. Et puis, j'étais vraiment contente qu'on en parle, les fameux stages non rémunérés pour les étudiants. C'est vrai que, bon, vous allez me dire, je suis un peu en ce moment là-dedans. J'ai une de mes filles qui vient justement d'avoir un stage non rémunéré dans un cabinet d'avocats où tu te dis, voyons les avocats, pourquoi vous payez pas vos stagiaires? Tu sais, t'auras envie de dire, c'est pas parce que vous êtes à deux piastres près. Mais en même temps, j'avais cette discussion-là avec ma fille, puis elle me disait, mais là, maman, regarde, on était des centaines sur le poste, puis c'est moi qui l'ai eu, il y avait comme une dizaine de possibilités. Je commencerais pas à arriver puis à dire, ben j'aimerais ça que vous soyez, que vous me payiez. Tu sais, il y a une espèce de négociation que les jeunes osent pas faire. D'abord, un, parce que ils sont conscients parfois de la précarité de leur statut, puis deux, parce qu'ils sont peut-être pas au courant non plus de la façon, ils ont des craintes, ils sont nouveaux sur le marché du travail. Mais il y a pas que les jeunes, et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Il y a tous les autres. Et peut-être vous là-dedans, parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit, des gens qui travaillent d'un certain âge, qui sont retournés sur le marché du travail, puis font des petits job-in, ils ont accepté des conditions pas idéales, vraiment basses, sur le bord de l'exploitation, mais c'est mieux que rien. Hein? Des fois, on se dit ça. Alors, c'est ça notre question aujourd'hui. Je vous pose la question vraiment comme ça. Est-ce que vous avez déjà été exploité? Avez-vous l'impression qu'en ce moment, vous êtes exploité au travail, qu'on vous paye pas comme ce qu'on devrait vous payer? Vous avez peut-être entendu ce facteur qui nous a appelé en début de semaine, qui disait qu'il travaillait 10 heures par jour, il est payé 6. Bon, et ça, c'est en partant. Si tu fais 10 heures puis qu'on t'en paye que 6, il y a un problème. T'sais? Alors, c'est ça notre question. Pour en discuter, Régent Parent, ex-président de la Centrale des syndicats du Québec, chroniqueur au Journal de Montréal. Merci d'être là, Régent.
Bonjour, Isabelle.
Fred Bastien est youtubeur, animateur.
Salut.
Salut, Fred. Fred William Miro, on a deux Fred aujourd'hui. Fred William Miro, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Merci Fred d'être là.
Bonjour Madame Maréchal.
Tu peux m'appeler Isabelle parce que là, parfait, sérieux, parfait. Ça va être difficile pendant une heure.
C'est pas une assemblée générale.
Non, c'est vrai.
Ah, c'est ça. On a le quorum ici. On a bien des gens qui écoutent. Mais je vais commencer avec toi Fred parce qu'on vous a beaucoup entendu puis j'étais vraiment effectivement contente qu'on mette ce sujet-là sur la place publique parce qu'on n'en parle pas souvent. La dernière fois, on parlait des carrés rouge quand on a parlé d'étudiants en grève, là, cette semaine. Bon, vous n'avez pas été des milliers à sortir, mais quand même, il y a eu un mouvement. Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui, là? On est jeudi. Êtes-vous content d'un peu de ce qui s'est passé? Au moins, on en a parlé, mais est-ce que ça va changer quelque chose, finalement?
Bien, en fait, pour parler un peu de la situation des stages là, dans le mouvement étudiant, ça fait 2 ans environ là, au niveau de la FEC qu'on travaille sur le sujet. On a vraiment une approche axée sur la recherche pour l'instant parce que au-delà de est-ce qu'on veut compenser les stages, et il faut être capable de dire lesquels on veut compenser, combien ça va coûter, de quelle manière on finance tout ça. Et c'est un peu les questions à laquelle la FEC s'attarde pour l'instant. Donc, hier, on faisait le lancement de notre deuxième recherche. On avait 7 recommandations à soumettre au gouvernement par rapport à la... au dossier de la rémunération, mais aussi des conditions de stage. Donc, oui, rémunérés, mais aussi, est-ce que les stagiaires peuvent être couverts par la santé sécurité au travail? Est-ce que
oui,
les stagiaires peuvent être couverts par les politiques d'harcèlement au travail? C'est ce genre de conditions-là qui, pour l'instant, il n'y a pas nécessairement de loi qui protège ces stagiaires-là. Donc, on est vraiment dans cette approche-là et on somme le ministre, M. Roberge, de mettre en place un chantier pour clarifier les questions qui restent parce que en ce moment, on a des pistes de solutions à suggérer au gouvernement, mais on n'a pas nécessairement des coûts. Qui finance, comment? Il faut clarifier ça avec les acteurs du réseau collégial.
Et il y en a beaucoup, là. C'est presque 70 % des stages effectués par les cégepiens qui sont pas rémunérés. À l'université aussi, c'est un vrai problème. Fait qu'à un moment donné, puis Fred Bastien,
oui.
Toi, comme dans le monde des médias, on le sait, on fait bien des affaires gratis.
Pour commencer, on fait des affaires gratis, des affaires pas chères, mais faut se respecter aussi, je pense que c'est important.
Mais toi, tu l'as vécu, ça.
Absolument. Mais moi, j'ai été très privilégié parce que j'ai commencé dans le monde des médias grâce à Musique Plus. J'ai tellement apprécié mon expérience-là, puis je le dis aujourd'hui, ça a été très formateur pour moi, mais j'ai accepté des conditions peut-être discutables pour certaines personnes dans l'industrie, mais qui pour moi valaient de l'or parce que j'étais un étudiant. Sauf que j'étais rémunéré. Et moi, dans mon programme en médias interactifs à l'UQAM, en communication, on a des stages obligatoires. Puis c'était le cas de mes collègues en stratégie de production, en télévision. Puis ça implique que un stage obligatoire pousse des étudiants sur le marché du travail dans l'industrie médiatique québécoise à Montréal et amène le marché de l'emploi vers le bas parce que plutôt que d'engager, par exemple, une coordonnatrice ou un coordonnateur, ben on va engager 2-3 stagiaires. On va être payé par le gouvernement pour le faire. On va recevoir des incitatifs gouvernementaux pour embaucher les stagiaires, puis on payera pas les stagiaires parce que de toute façon, ils sont obligés de le faire. Puis on parle de 300 heures parfois. Là. On parle de 2 mois à temps plein. Là. Puis ça, c'est juste dans l'industrie des communications. Imaginez maintenant les infirmiers, les avocats. On l'a mentionné plus tôt. Je comprends que c'est important de sacrifier un peu de sa personne pour apprendre, puis ça fait partie du processus d'embarquer puis de recevoir une formation qui vaut de l'or parce que c'est de la formation pratique. Sauf que
si quand il y a véritablement formation là.
En plus. Mais quand je regarde l'industrie de la production québécoise, puis on voit des producteurs millionnaires qui embauchent des bénévoles, je me dis il y a un problème là. Tu sais, il y a un problème. Puis j'imagine que c'est la même chose dans d'autres industries où les inégalités sont encore plus grandes.
Là. Oui, mais en fait, on le souligne dans notre deuxième recherche là. Le problème qu'on a notamment avec les stages, c'est que la plupart des domaines qui ne sont pas rémunérés en ce moment, ce sont des stages de tradition féminin. Donc, quand on regarde le travail social, soins infirmiers, c'est des stages qui ne sont pas rémunérés. Alors que au niveau du droit, généralement, c'est rémunéré. Là, ça m'étonne que votre fille, ça ne le soit pas. Mais le droit, le génie, les mathématiques, l'informatique, c'est des domaines qui sont très bien rémunérés à part de ça. Donc, il y a vraiment un enjeu d'inéquité sociale à couvrir au niveau des stages.
Régent, et quand on parle d'inéquité, Régent se soulève.
Alors ça, c'est sûr que l'iniquité, là, ça me passe difficilement entre les dents. Mais Isabelle, agréablement surpris de la position de la FEC. Moi, je pense que c'est la position qui doit être mise de l'avant dans le moment. Là. Puis je pense que le bruit qui s'est fait cette semaine, c'est de pouvoir capter l'attention publique sur le dossier, de dire « Oh, il y a un problème, là. »
Il y a bien des gens qui ne savaient pas ça.
Il y a un problème à régler. En même temps, je veux dire, c'est pas aussi simple que ça ne l'air. C'est pas un discours simplette de dire ben il faudrait payer tous les stages. Mm-hmm. Ce que j'entends de Fred, c'est à quelque part, ça nous prend une table de concertation. Faut être en mesure d'avoir une table de discussion. Faut être capable de distinguer qui sera payeur, l'entreprise, le gouvernement, un mix des deux. Quel type de stage mérite une compensation ou n'en mérite pas? C'est de l'observation, c'est de la formation, c'est du travail. Et il y a des principes à établir. Puis je pense que tous les trois, on va s'entendre assez rapidement parce que là, je fais un bon avec mon YouTuber préféré, c'est à quelque part, quand tu contribues à la productivité de l'entreprise, ben ça serait normal que tu reçoives une juste rémunération pour le travail que tu fais. Là, ça dépasse le cadre du stage.
Ouais.
Tu es en train de travailler pour cette entreprise-là, puis tu contribues à sa profitabilité, et ça serait seulement que l'entreprise qui en tire des bénéfices, puis l'étudiant qui finalement travaille, parce qu'il fait pas juste de la formation, il travaille, lui, ben regarde, c'est gratuit, merci, bonsoir. Et c'est là.
Puis encore. Mais après, puis je voulais qu'on l'élargisse parce qu'en ce moment, sur le marché de l'emploi, là, on sort du cadre du stagiaire étudiant, il y a sur le marché de l'emploi des gens à qui on dit aussi, à qui on tient un peu ce discours, ben écoute, tu sais, faut que tu comprennes, notre industrie a de la misère en ce moment. Donc, ou tout simplement, t'es pas averti, mais je pense entre autres aux gens qui travaillent dans l'industrie du détail. Pour connaître beaucoup de gens qui travaillent dans des magasins, dans des entreprises de services au détail, souvent tu vas avoir, par exemple, ça c'est très à la mode, t'es plus un vendeur, t'es soit un associé, soit un leader. Mais t'es plus vendeur. Vendeur, c'est l'industrie de l'auto. T'es encore vendeur de char, mais t'es pas vendeur dans un magasin. T'es un associé, comme chez Walmart. Ou t'es un leader. Là, on fait des rencontres de leaders la fin de semaine.
Oui, mais on te garde le statut de salarié, puis on te sous-paye.
Exact. Et la fin de semaine, mettons de 5 à 7, le dimanche soir, tu as un meeting. Ton meeting, si tu vas me dire, ouais, c'est juste 2 heures. Ben, à la fin du mois, ça te fait une journée que tu as donnée à ton employeur gratis. Mm. Et ça, ça existe. Et une fois, c'est peut-être beaucoup de jeunes, Fred, là. Je sais pas si t'en as au cégep, des amis qui font ça ou à l'université, mais moi, j'en connais des jeunes, là, à qui on dit ça, qu'on paye pas, donc, carrément pas non plus, là.
Ah, moi, j'ai une bonne amie qui travaille 40 heures semaine pour se faire payer 35 heures semaine. Puis ça, c'est quand elle fait pas 50. C'est commun, puis, effectivement, peut-être qu'il y a une part d'apprentissage. Moi, je pense que, bien sûr, il faut continuer de réfléchir aux droits des travailleurs, puis il y a une pertinence à peut-être même mondialiser une pensée syndicale, parce que on est toujours en compétition avec le reste du monde maintenant en tant que producteur de quoi que ce soit maintenant aujourd'hui, tu sais. Mais je pense qu'il faut aussi beaucoup éduquer les individus puis les jeunes que tu viens de mentionner, parce que oui, il y a les normes du travail, puis oui, il y a des lois qui les protègent, mais il faut aussi qu'ils soient capables de se battre un peu pour eux-mêmes quand ils ont des situations difficiles à vivre comme ça avec leurs employeurs. Puis c'est pas nécessairement de vouloir faire la révolution puis de se syndiquer dans un Walmart, mais c'est peut-être quand on a la chance de parler à ses collègues de ses conditions de travail puis de réfléchir à notre salaire puis à nos conditions, ben, ça peut déjà au moins être un premier vecteur de changement, puis ça peut outiller les gens à négocier.
Oui, Réjean. Moi, là-dessus, je pense qu'un individu abandonné à lui-même face à une transnationale comme Walmart, là, il peut bien être conscient de ses droits, mais la côte est haute.
Ouais. C'est clair.
Que des gens puissent s'associer. La preuve, les étudiants s'organisent, ils s'associent. Mm-hmm. Moi, je pense que les travailleurs puissent s'associer, s'organiser. Évidemment, moi, j'ai un origine syndicale, vous aurez compris que j'ai tendance à privilégier l'organisation du travail.
Ouais.
L'autre aspect, quand on parle de rémunération, puis que là, ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les personnes âgées, les personnes qui ont pris leur retraite, mais qui ont vu leur prestation de retraite amputée parce que les entreprises ont fait faillite ou tout ça, puis qui s'en vont travailler, je veux dire, pour des miettes, là.
Et il y en a de plus en plus,
ces gens. La mesure, là, ça met beaucoup de sympathie sur les revendications des groupes communautaires, puis du mouvement syndical, d'un salaire minimum adéquat. Tu sais, à quelque part, là, on se retrouve aujourd'hui avec des gens, puis ce que tu décris, Isabelle, des gens qui, en bout de course, travaillent, des fois travaillent même à temps plein, et qui sont des travailleurs pauvres. Fait que, il me semble que quand tu travailles, ça sera un minimum que tu puisses gagner, avoir un salaire décent qui te permet de vivre correctement. Je dis pas de vivre enrichissime, mais au moins de vivre correctement. Mais on est dans un contexte où, effectivement, la pression est forte, les gens, on sous-traite, on impatiente, on a désinstitutionnalisé du côté des centres d'accueil pour les personnes âgées, on a privatisé, on est dans des salaires minimums au lieu d'avoir des salaires qui correspondaient, je veux dire, à la juste valeur du travail que tu faisais. Là, tu te retrouves, tu parles de ta fille, là, puis effectivement, à quel quelque part...
Mais il y en a d'autres, là.
Non, mais je sais que tu veux pas faire de la personnalisation, mais la réaction qu'elle a, c'est de dire, je suis pas pour faire du bruit, ils m'ont choisi. Mm-hmm. La même chose, celui qui se présente le dimanche soir à 5 heures, ou celle qui se présente, ben, elle se dit, là, si j'y vais pas, je vais-tu pouvoir travailler cette semaine puis faire mon 27 heures et 3 quarts, parce que souvent, c'est des gens qui sont au salaire minimum. Vous êtes associé de je sais pas quoi. Moi, le partenariat, habituellement, c'est égal.
Il y a un partage des profits. Oui, il y a un partage des profits.
Exactement. Et là, tu dis, ben là, si j'y vais pas, je vais te savoir mon petit 27 heures, parce qu'après tout, là, c'est tout ce que j'ai dans le moment. Fait que oui, il y a des gens qui sont exploités. Oui, il y a besoin d'avoir des mesures sociales qui viennent établir c'est quoi la protection. Puis ce que je trouve appréciable aussi, Fred, par rapport à FEC, que vous regardiez les conditions aussi, la protection en termes de santé et sécurité.
On doit aller à la pause là-dessus, puis avant d'y aller, je vais vous dire que le gouvernement fédéral vient de déposer un projet de loi spécial pour forcer le retour au travail des employés de Poste Canada. Vous savez qu'il y a des grèves tournantes là, depuis à peu près un mois et demi. Donc, c'est la ministre du Travail qui vient de déposer ce projet de loi à la Chambre des communes ce matin, là, il y a quelques minutes, je voulais vous le dire. Donc, une loi spéciale pour amener les les postiers au travail. On parle justement de travail, nous aussi. Est-ce que vous estimez qu'il y a trop de gens qui sont exploités? On pense, entre autres, parce que c'était dans l'actualité cette semaine, à ces jeunes étudiants qui ont des stages, beaucoup, 70 % à peu près, au cégep, qui ne sont pas rémunérés. À l'université aussi, ça se voit fréquemment, surtout dans certains secteurs, dans certains domaines d'études. Puis, il y a toute la question aussi, il y a des parents qui disent, ben moi, je ne peux pas payer pour les études de mes enfants. Fait que les jeunes disent, ben moi, je suis obligé de travailler. Si je travaille, mais que je ne suis pas payé pour le travail que je fais, comment j'arrive? C'est un peu ça qu'on a entendu cette semaine. Et ça a eu beaucoup d'écho chez d'autres types de travailleurs qui, eux aussi, sont pas forcément payés à la hauteur de ce qu'ils mériteraient. Si c'est votre cas, on veut vous entendre là-dessus. 514-790-9850. On est en compagnie de Régent Parent, Fred William Miroux, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec, Fred Bastien, qui est YouTuber et animateur. On parle entre autres de l'exploitation de certains travailleurs et stagiaires étudiants. Ça a été la grosse nouvelle cette semaine, c'est que les jeunes, beaucoup de jeunes sont sortis en disant, ben nous, on est étudiants, puis c'est une pression sur nos études aussi que d'être obligés d'avoir ces stages, souvent, à peu près 70 % des cas au cégep, à l'université, où on est obligé d'accepter des stages non rémunérés. Et ça nous a donné envie de parler de tous ces emplois aussi où on est obligé d'accepter des conditions qui sont pas celles qu'on a, un, rêvé, mais deux, qu'on souhaiterait et qui sont minimales. Laurier, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Alors, moi, je devrais être en classe à l'heure où on se parle. Je suis chargé de cours à l'UQAM et les 44 étudiants qui devaient se présenter ce matin sont pas là, tout simplement. Et sincèrement, je les comprends. On est en fin de session, ils ont à essayer de ramener une session et la finir et la compléter, mais on voit nos étudiants épuisés d'avoir à mener des études, travailler à temps partiel pour arriver et se retrouver dans un milieu de stage régulièrement où ça les oblige à couper sur des heures de travail pour leur permettre de réaliser leur projet d'études. Ouais. Et moi, j'ai le privilège d'enseigner à des étudiants cette session-ci. Dans le domaine des entreprises culturelles et la réalité du marché de l'emploi, c'est que c'est en très grande partie de petites entreprises qui n'ont pas les moyens de payer des stagiaires. C'est une ressource humaine intéressante pour ces organisations-là, mais quand tu as 2, 3, 4 employés permanents, tu n'as pas la masse salariale qui te permet de dégager un salaire pour payer tes stagiaires. Tu souhaites avoir des stagiaires. Nous, comme éducateurs, comme enseignants, on souhaite mettre nos jeunes étudiants dans une vitrine, dans un scénario où ils voient la réalité du marché de l'emploi, mais la réalité du marché de l'emploi, c'est surtout de petites entreprises ou des OBNL qui n'ont pas la masse salariale pour rémunérer les stagiaires. Ben, on est presque devant une impasse.
Mais donc, Laurier, vous êtes d'accord avec Yves qui m'écrit sur Facebook, Isabelle Maréchal officielle, vous pouvez m'écrire aussi, où il dit il y a plein d'entreprises qui ne vont pas prendre des stagiaires s'il faut qu'ils se mettent à les rémunérer. Et en partie pour la raison que vous donnez, mais est-ce que ça vient pas confirmer le fait que, justement, on utilise donc les jeunes au Québec comme du cheap labor?
Bien, en partie, oui, mais j'ai aussi, parallèlement à ma charge d'enseignement, je suis un directeur général d'une entreprise, d'une organisation, d'une OBNL. On souhaite accueillir ces stagiaires-là. On sait que c'est une opportunité d'expérience de travail qui va aider les étudiants et on souhaite être là pour les accueillir. Je pense que les étudiants apprécient être les deux pieds dans le marché et de voir la réalité du terrain. Mm-hmm. Mais c'est pas forcément une exploitation des étudiants. Il faut réaliser que quand on accueille des étudiants comme milieu de stage, c'est une charge additionnelle aussi. Là. C'est un accompagnement à faire,
voilà. Et un coaching à faire. Peut-être qu'il faut, à ce moment-là, mettre des barèmes. Est-ce que ça serait, au lieu de dire un salaire, de dire une compensation pour le temps?
Oui.
Puis après, il y a des stages. Tu sais, il y a des stages, ils durent 3 mois. C'est drôle, ils durent juin, juillet, août. Tu sais, puis c'est long comme stage, à un moment donné. Ça ressemble plus à un job d'été pas payé, là.
Effectivement. Mais la question à se poser, c'est est-ce que les PME, les entreprises, les OBNL ont les moyens de payer même un salaire minimum à ce moment-là? À moins d'avoir accès à des programmes de subventions des emplois étudiants un peu mieux rémunérés qu'on peut associer à un contexte de stage.
Fred Bastien,
le gouvernement fédéral a des programmes d'employabilité pour des étudiants dans ce contexte-là.
Oui, exact. C'est sûr qu'il y a des différences selon les industries, mais moi, je me dis, pour les programmes gouvernementaux déjà existants, comme c'est le cas présentement, ça serait moins vraiment décent, j'ai l'impression, qu'il y ait au moins une portion du budget gouvernemental qui soit alloué à rémunérer un peu les étudiants qui travaillent. Parce qu'on ne veut pas les endetter, on ne veut pas se ramasser avec un modèle comme aux États-Unis où les jeunes sortent sur le marché du travail avec des dettes de centaines de milliers de dollars. On veut qu'ils se concentrent dans leurs études et pas qu'ils soient forcés d'avoir un job de serveur ou de barman en même temps.
Mais on a tout fait ça.
Oui,
ça ne va pas s'arrêter. Mais
c'est sûr, mais si on pouvait les aider à se concentrer davantage sur leurs études et à s'intégrer plus rapidement dans leur métier, ça va être toute la société qui va en bénéficier.
Complètement. Je suis tout à fait d'accord.
J'entends parler beaucoup d'épuisement. C'est sûr que quand on parle de stage, là, on pourrait dire, les stages d'observation, est-ce qu'il doit avoir une compensation financière pour ça?
Qu'est-ce que tu en penses, Fred, de ça?
En fait, l'étudiant qui fait un stage d'observation, dépendamment de l'intensité du stage, doit réduire son nombre d'heures de travail qu'il aurait fait dans un autre emploi de toute manière.
D'où la compensation.
Ouais. Quand on parle de stage intensif, c'est généralement les étudiants diminuent de 33% le nombre d'heures travaillées. On sait que les étudiants sont souvent au salaire minimum, ils ont des frais de scolarité à payer, ils ont un appartement, ils ont de la bouffe.
Les parents ne payent pas?
Les parents ne payent pas nécessairement. Donc, si le milieu de stage est trop exigeant, même si l'étudiant est en observation, il va subir la précarité financière. Et c'est pour ça que la FEC, on travaille avec un éventuel chantier pour étudier la question. Et oui, on veut que les entreprises fassent leur juste part. Là. Actuellement, il y a un crédit d'impôt pour la rémunération des étudiants en stage. Mais peut-être qu'il faut que ça aille plus loin. Mais évidemment, il faut qu'il y ait un support pour les organismes communautaires, les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens de supporter cette charge-là.
Mais c'est pour ça que ça ne peut pas être mur à mur.
Regarde,
il y a des grandes entreprises. Là, on parlait de transnationales tantôt. Mais moi, là, je n'ai pas trop de pitié pour une transnationale. C'est-à-dire, vous allez prendre des stagiaires puis vous allez payer correctement. Pour un OBNL, là, on est dans une autre dynamique. Ce qui donne raison, encore une fois, à Fred et à la FEC, d'avoir un chantier, d'avoir des vis-à-vis, d'avoir une discussion, d'être capable de faire du ménage dans tout ça, puis d'établir des principes, des règles. Qu'est-ce qui finalement doit être compensé par le gouvernement? Qu'est-ce qui doit être rémunéré par les entreprises? Qu'est-ce qui peut être une jonction des deux? La nature des stages. Moi, je comprends là que un stage d'observation, mais je vais être sympathique là, mais pour venir du monde de l'éducation, le premier stage de 10 jours en
première année,
là.
Même s'il n'y avait pas
de compensation, je pense pas qu'il
va besoin de te faire un curriculum vitae, là. T'as besoin de te faire un CV.
En même temps, j'apprenais aujourd'hui, grâce à Fred, qu'en quatrième année, maintenant, il y a de compensation pour le stage 4 mois.
Quatrième année d'université
en éducation. Okay. Je veux dire, t'as 4 mois de stage prise en charge d'un groupe. Fait que c'était un peu normal que t'aies une compensation parce que là, tu peux pas faire autre chose que ça pendant que tu
fais. Exactement.
Fait que donc, il y a du ménage à faire, puis je pense que vous avez la bonne voie.
On revient tout de suite après la pause. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de cette loi spéciale, parce qu'on parle de travail. Une loi spéciale pour amener du monde au travail, moi, je trouve toujours que c'est délicat. C'est pas évident.
Très délicat. Je vais te le dire ce que j'en pense.
Après la pause, 514-790-9850 et 1-866 pour nous joindre sans frais, 1-866-790-9850. Dites-nous si, effectivement, vous en connaissez du monde, c'est peut-être vous qui êtes un peu exploité au travail, faites plus d'heures que vous êtes vraiment payé ou même qu'on vous dit de faire beaucoup d'heures, de donner des heures gratuites. Je veux dire, il y a des milieux, là, puis c'est vrai, tout à l'heure, Fred William Miro le disait, beaucoup de filles qui sont infirmières en santé, les préposés bénéficiaires aussi, on en parle souvent des préposés, mais je pense qu'on n'en parle pas assez parce qu'il va vraiment falloir améliorer leurs conditions de travail, là, entre autres à ces gens-là. On vous parle tout de suite après. On parle de travail ce matin, d'exploitation, de stages rémunérés, non rémunérés. Évidemment, c'est plutôt le deuxième. Les étudiants s'en sont beaucoup plaints cette semaine. On a été aussi en début de semaine en contact avec un facteur, Luc, qui nous parlait de sa situation parce que je vous posais la question en début de semaine par rapport aux grèves de la SAQ où là, visiblement, puis j'ai continué ma petite enquête non scientifique où je demande à tous ceux que je croise, pile les grévistes de la SAQ, t'as-tu une empathie pour eux, puis c'est assez clair, il n'y a pas grand monde qui est plein. Mais pour les postiers, c'est un peu plus mitigé. Surtout depuis que Luc nous a appelé en début de semaine pour nous expliquer un peu l'espèce de double statut, les postiers ruraux versus les postiers urbains, ceux qui étaient à leur compte avant. Bref, on a compris que c'était pas simple, que c'était très compliqué. Et là, loi spéciale ce matin, boum, Luc est pas content et il nous rappelle. Bonjour Luc.
Bonjour Isabelle. C'est pas que je suis content. Honnêtement, pour le monde qui me connaît, je suis un gars émotif. Je suis déçu ce matin, Isabelle. Je suis vraiment sincèrement déçu. Je joue pas un personnage. Dans une autre vie, j'ai été représentant pour mes membres. Aujourd'hui, je suis juste un simple employé. Puis j'ai encouragé mes membres jusqu'à ce matin à dire donnons la chance au gouvernement. Je pense pas qu'ils vont aller là. Parce que moi, du double discours, puis j'en ai fait de la politique. Je suis un gars qui a déjà fait de la politique municipale, Isabelle. J'ai toujours dit les choses franchement, même si c'était dur à dire. Quand j'entends un gouvernement Trudeau qui dit en 2011 contre le gouvernement Harper, c'est pas correct de faire ça. L'NPD qui a toujours été un appui derrière nous et qui l'a encore. J'ai regardé les petits extraits des communes hier. Aujourd'hui, je suis déçu parce qu'on m'a enlevé tout droit de négocier. Puis quand on dit à l'employeur qu'on va faire une loi spéciale, tu sais, je donne un exemple. Tu travailles Saint-Sauveur Barbecue, une PME, là. Il fera pas une loi spéciale, il peut pas, mais parce qu'on est gouvernemental, le gouvernement, par plein d'informations, se dit qu'il est obligé pour l'économie. Mais Isabelle, sérieusement, on a démenti syndicalement qu'il n'y avait pas 600 camions qui traînaient. Je pense que ça a été dit au Parlement hier. Tu sais, à un moment donné, ça aurait été fun qu'on ait de la latitude où le boss du boss, là, le boss de Poste Canada, ben, c'est le gouvernement. Si le gouvernement a dit à son employé qui est le Poste Canada, ben, tu veux-tu s'asseoir puis négocier franchement au lieu de dire, ben, regarde, négocie pas puis on va te régler ça, nous autres, on va te faire une loi spéciale. J'ai aucune idée c'est quoi les conditions, Isabelle. Puis j'essaie de dire, puis je sais pas, là, je parle peut-être
un. Sait, là, c'est que il y a un projet de loi qui a été déposé pour vous forcer à retourner travailler, mais on n'a pas de projet de loi non plus, là, nous, là.
Ouais. Tu sais, Isabelle, aujourd'hui, là, je travaille dehors avec le facteur moins 20, c'est moins 27. Puis je serais pas payé pour toutes mes heures de travail si je dépasse mon cadre de travail qui est basé sur une semaine. T'sais, puis encore là, je te dis toujours, je suis la minorité dans la minorité, mais on est quand même 8 500 sur une force de frappe de 50 000 au Canada à avoir des conditions moindres dans tous les secteurs de nos avantages et de notre salaire. Et la seule chose qui est venue corriger une partie, c'est un arbitre avec l'équité salariale, mais l'employeur, dans ces négos-là, pendant 3 ans, nous a dénigrés, a dit qu'on était comme des personnes qui avaient... On était chanceux de pouvoir utiliser nos propres véhicules pour travailler, qu'on était chanceux, on pouvait vaquer nos occupations... C'est une mauvaise foi.
Oui, tout à fait. Fait que c'est jamais le fun de se faire botter dans le derrière pour rentrer au travail. De toute façon, surtout dans ce cas-ci, c'était pas une grève générale. Il faut quand même le rappeler, c'est une grève tournante. Moi, j'ai commandé du stock. On va parler de Vendredi fou demain. J'ai commandé des choses sur Internet qui m'ont été livrées avec peut-être une journée ou deux de retard. Mais je veux dire, rien pour se plaindre puis en faire un cas. Donc, on peut pas dire que ça a gelé non plus tout le système postal au Canada.
J'espère que c'est pas à cause du Vendredi fou.
Mais je pense que oui.
C'est pas à cause que les députés voulaient s'acheter des cochonneries sur Amazon qu'ils voulaient absolument faire passer une loi spéciale.
Je pense qu'à la veille du Vendredi fou, il y a certainement
la ministre du Travail l'avait énoncé.
Elle avait dit qu'il va falloir qu'on s'entende avant cette journée-là,
ça dans deux perspectives,
qui est importante pour les commerçants canadiens. Elle l'a dit cette semaine. Mais Luc, vous en pensez quoi, vous? Pourquoi, là, aujourd'hui?
On va dire les vraies choses. En début de semaine, quand la ministre du Travail a dit que là, l'économie est affectée, alors, Poste Canada a fait de la surenchère là-dessus. C'est vrai, il y a des centaines de camions qui traînent un peu partout. On a démenti ça. Mais la réalité, vous savez, là, c'est de la belle publicité. Là. Quand l'employeur vient nous dire qu'il nous demande une trêve, vous comprenez, là, on va pas dire que c'est du fake news, mais c'est de dire, regardez, on vous offre ça, faites rien, on va vous donner peut-être un bonbon dans 3 mois, on fera pas de lock-out, mais c'est ridicule de dire ça. Si on fait pas moins de pression, l'employeur va pas nous mettre en lock-out. Et on va peut-être vous donner un bonbon jusqu'à l'équivalent de 1 000 $ si vous faites rien. Mais comme quand t'es employé, là, ton seul droit de revendiquer, c'est de faire des moins de pression et une grève, si. C'est comme la SAC un peu. Mais nous aussi, on le savait que c'est le prime, là. On le sait que d'ici les fêtes, si rien se réglait, à fin janvier, là, oubliez ça, là. Parce que là, elle dit, pardon, vous êtes qui, vous autres, déjà? Vous travaillez pour qui? Puis là, t'as le gouvernement qui vient de dire, fini, on vous coupe l'herbe sous le pied. Ben, la neige, là.
Merci. écoutez, mais j'espère que vous avez des bonnes mitaines, une bonne tuque parce qu'il fait pas chaud dehors. Luc, merci de nous avoir appelés. Restez en onde. On va prendre vos coordonnées, Luc, vos numéros et noms de famille. Merci beaucoup. Ce facteur-là, je l'aime bien parce que je trouve qu'il nous dit, qu'il nous montre un autre côté de la médaille qu'on connaît pas forcément, Régent.
Souvent, il faut regarder. Je veux dire, on va avoir une image, t'es pas chier, puis il y a des gens qui sont bien traités, tout ça. Mais en même temps, là, on nous parle d'une dizaine de milliers de travailleurs qui sont dans des conditions inférieures. C'était l'enjeu de la négociation il y a 2 ans. La Société des postes les a niaisés pendant 11 mois en négociation. À partir du moment où ils entreprennent quelques moyens de pression, qui tout en étant, parce que moi, je pense qu'ils ont une stratégie là, intelligente, ils essayent justement de garder l'opinion publique, puis de pas mettre grève générale, grève rotative, le service continue de se donner, Isabelle ouais. Leur souhaite ses colis.
Non, non, mais je veux dire, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont fait la même affaire. Moi, j'ai voulu le tester. Je voulais voir... Combien de temps ça prendrait? J'allais-tu le recevoir ou pas?
Ça fait
au moins. Je pense aussi, comme consommateur, il faut se calmer les petits nerfs. T'sais, quand même, ben, ça t'arrive exactement. Deux jours après, mais, là, au moins, personne meurt.
Mais au moment où ils exercent le moyen de pression, ouais. C'est un moyen où ils peuvent avoir une véritable pression. Ouais. L'employeur dit, va vous faire une trêve. Ben une ouais. Trêve, la période des fêtes, la période. Et là, c'est exactement
ce que
je dis.
Le but de la grève, c'est que ça dérange.
C'est dans rendu en janvier, ben, un autre 11 mois ouais. De niaisage.
On a Josiane avec nous. Bonjour, Josiane. Êtes-vous sur les postiers bonjour. Ou êtes-vous sur les stages ou vous êtes sur quoi? Vous voulez nous dire quoi?
En fait, moi, dans la début vingtaine, j'avais fait un stage dans une entreprise québécoise que je ne nommerai pas. Mm-hmm. Puis, c'était un stage qui n'était pas rémunéré. Mm. À l'époque, j'avais rien dit, en fait, un peu... par manque de confiance, probablement.
Ouais.
Mais avec le recul, je me rends compte que c'était le mot « cheap labor » que vous avez mentionné tantôt.
Ouais.
Je me retrouve un peu là-dedans. Donc, c'est ça. Puis, c'est sûr que pour moi, c'était quand même une belle opportunité. En fait, c'est ce que je croyais. Mais le plus décevant là-dedans, c'est que je peux pas dire que j'ai appris tant que ça parce que c'était pendant l'été, là, trois mois pendant l'été. Puis, en fait,
trois mois pas payés, là.
Ouais. Oui, fait que trois mois pas payés pendant les vacances des employés là-bas. Donc, c'est sûr que c'est pratique d'avoir quelqu'un là, qui peut qui peut faire de la job-in, là, si on veut. C'est ça. Fait que dans le fond, on m'a comme stationné à un bureau, puis on m'a donné de la job à faire, mais je peux pas dire que j'ai appris quoi que ce soit là-bas. J'avais pas de star, là, si on veut.
Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et dans les stages en particulier, il y a normalement l'employeur doit fournir après un rapport de stage. Hein, Fred, William Miro, il y a des cadres aussi. Un stage, c'est pas juste tu vas là, tu travailles, tu ressors. Puis il y a un cadre. Et l'étudiant peut se plaindre aussi des mauvais endroits, non?
On aimerait ça qu'il y ait un cadre. On parle de 25% des stages environ au collégial, qu'il n'y a même pas de contrat qui définit c'est quoi la nature du stage, les droits du stagiaire, les recours qu'il y a si jamais quelque chose qui ne marche pas.
Et à l'université, savez-vous comment ça marche?
À l'université, j'ai pas les chiffres, mais c'est quand même inquiétant de voir que même en 2018, il y a le corps des stagiaires qui ne savent toujours pas si dans leur stage d'observation, finalement, ils vont faire de la prise en charge totale ou partielle. Est-ce qu'ils vont subir du harcèlement? C'est quoi leur recours? Il y a vraiment des stagiaires qui sont laissés à eux-mêmes.
C'est sérieux, ça. Il y a un gros rapport de pouvoir, même si c'est bénévole, le stage, entre les boss et les personnes qui sont stagiaires. Parce que souvent, en tout cas, moi, c'était le cas de mon baccalauréat, c'est les boss qui choisissent ta note. Oui, il y a une portion qui est sur le rapport de stage que tu remplis, qui va être évalué par ton professeur. Mais moi, 50% de ma note qui donnait des crédits, là, c'était 3 crédits dans mon bac, juste pour ce que le boss pensait de mon stage. Moi, j'étais très chanceux parce que j'ai été à un stage où je travaillais déjà. Donc, dans le fond, on m'a crédité mon stage parce que je travaillais déjà dans une entreprise que j'aimais. Puis mon patron, il était satisfait de mon travail, il m'a donné une bonne note. Mais imaginez, là, si on est bénévole pour une entreprise qui n'est pas reconnue de ne pas abuser un peu du temps de ses employés dans des industries où il y a beaucoup de pression, par exemple la publicité ou d'autres, les avocats, etc. Et qu'on presse le citron de ces individus-là bénévolement pendant qu'ils sont déjà en situation de précarité, en train d'essayer d'étudier, puis qu'on les presse, puis on les compense même pas pour le faire, puis qu'à la fin, on leur dit, mais t'es mieux de les faire les temps supplémentaires, puis de faire ton 35,
sinon,
ton 40, 50
mal.
Heures. Sinon, je vais te mettre B-, je vais te mettre C, je vais te mettre D, tu sais. Ouais. Et puis même si les patrons le feraient pas nécessairement, ben peut-être que juste le spectre de ça, ça hante les jeunes qui travaillent, puis ils doivent donc, selon moi, c'est juste une question de décence, qu'il y ait au moins un montant minimum d'attitrer à ce stress-là.
On s'en rejoint, Fred, mais je regarde le cas de Josiane, là. C'est 3 mois en période estivale. La période où normalement, là, tu vas te chercher.
C'est là que tu te refais quand tu es
étudiant. Surtout un étudiant, t'en as besoin.
Mais là, c'est sûr que j'ai des collègues enseignants qui n'apprécieront pas. Je ne sais pas si tu es au cégep ou à l'université. Josiane faisait son stage. Mais c'est pas normal que quand tu fais un stage, qu'il n'y ait pas une certaine supervision, que tu n'aies pas un prof de stage qui vient te rencontrer, qui fait l'état des lieux, qui examine et qui, à un moment donné, peut intervenir. Parce que lui, l'entreprise a aucune pression sur lui. Mm. Puis il peut intervenir. Puis il peut dire, oh, un instant, là, ça marche pas, là. Je dis, voilà les conditions. Fait que, tu sais, dans ce cas-ci, là, on a quelqu'un qui a été, en tout cas, là, je me fie à ce qu'elle nous décrit, là. Ouais. Exploité trois mois durant, pas de suivi, je veux dire, par rapport à son institution. C'est honteux.
Mais tu vois, André m'écrit, il dit, ouais, mais c'est tous les stagiaires sont pas des bons stagiaires. Il y a vraiment des jeunes qui sont incompétents, qui savent pas ce qu'ils font, puis qui méritent pas d'être payés, tu sais. Bon, ça, c'est une autre chose, tu sais, mais bon, là-dessus, qu'est-ce que vous répondez, Fred William Miro?
Ben, pour ce qui est vraiment de la supervision du stage, là, on parle
non,
de
mais
seulement...
des stagiaires qui sont pas justement, tu sais, qu'on serait obligé de payer comme employeur, mais qui feraient pas vraiment le travail.
Mais est-ce que le stagiaire amène quelque chose à l'entreprise ou à l'organisation? Si la réponse est oui, il devrait recevoir une compensation financière parce que l'étudiant, qu'il soit un bon stagiaire ou non, la note va en découler, ouais. Subit une précarité financière durant la totalité de son stage. Le stage de trois mois durant l'été, s'il n'est pas payé, si à la fin, on le coule, c'est une affaire, mais si on doit mettre de côté nos emplois pour ça, ben il faut qu'il y ait une compensation quelque part.
Fred, tu disais, tu avais une analogie avec les pyramides.
Mais c'est un de mes amis qui me disait ça hier. Si on avait voulu construire les pyramides en 2018, on aurait fait des offres de stage. Je pense que j'aurais donné un A+ à ceux qui ont fait celle de Toutankhamon. Moi, ça aurait été mon A+.
La pyramide déguisée, quoi.
Mais
quelque
chose. Too soon, je pense qu'on peut faire des jokes d'esclaves de pyramide. Je pense que ça fait quand même longtemps.
Tant que tu fais pas de l'appropriation culturelle, t'es correct.
Ah, je veux même pas de ça, c'est trop grave.
Prends-toi pas pour un Égyptien, c'est
appréciation,
très mauvais.
Appréciation.
On revient tout de suite après. Restez là, tout le monde. Il y a beaucoup de camionneurs qui nous écoutent tous les jours. D'ailleurs, j'en profite pour vous saluer. Je sais que vous êtes des bons auditeurs parce que la route est longue parfois. Mario, bonjour. Vous nous appelez. Bonjour. Vous êtes camionneur et vous dites que vous êtes exploité.
Bon, ben c'est certain. Tous les camionneurs sont tannés. Je pense partout dans le Canada. Mm. Ça, je dis au monsieur tantôt, ma dernière année, là, j'ai travaillé 3 ans en Alberta. Là. OK. 36 heures d'ouvrage. Là. Ça m'a donné 1720 heures. J'ai déjà fait 10 400 piastres clairs dans un mois à chauffer un truck. Ici, on a la misère à faire 3 500 piastres.
Aïe, aïe.
C'est
et pourquoi ça? Parce que vous êtes payé au kilométrage, mais le...
Non?
Vous êtes payé au forfait?
Il y en a qui sont payés à l'heure, au kilométrage. Comme, mettons, un gars qui vient de Californie, puis lui, il arrive dans le trafic à Toronto. Il n'est pas payé pour traverser, même si ça prend 3 heures, il est payé au millage.
Ouais.
Il arrive, c'est un client, il n'est pas payé la plupart du temps, ou ça paye après 1 heure. Ça paye des pinottes, a écouté 36 heures d'ouvrage, 1700 piastres clairs. Ça n'a aucun bon sens, Isabelle. C'est nous autres qui fait virer l'économie des camionneurs. Personne ne nous donne de chance. Ouais. On passe nos journées sur la route. Hier, j'ai fait 14h30. C'est des 60-65 heures par semaine. Puis, t'offres à ton patron, j'ai 57 ans. Tu dis, bon, ben moi, j'aimerais ça travailler 4 jours par semaine. C'est pas possible. C'est pas normal. Ça fait 30 ans que je travaille, là, 60-70 heures par semaine. C'est un moment donné, là. Faut pas loin que ça change qu'on s'éveille des Québécois.
Avez-vous votre camion ou c'est le camion de la compagnie?
Non, j'ai déjà eu mon camion. Quand le fioul a monté en 2008, ça m'avait coûté 70 000 de fioul dans un an.
Ah,
En 2006. En 2008, ça m'a coûté...
Sont chers, ces camions-là, là. C'est cher, là.
Ouais. 108 000. Ouais. Un 30-pain trailer, là, ça joue, c'est 200-300 000 de train, là. Mais je trouve ça bien déplorable parce que c'est pas facile, le camionneur, puis c'est tout le temps sur la route, le bruit du camion, les oreilles te filent, la plupart, toutes les oreilles le filent parce qu'ils font de la poutine.
Ouais,
à cause du bruit, puis en tout cas, j'espère que M. Legault, j'ai voté pour lui parce qu'il a dit que ça prenait des meilleurs salaires. Dernière chose, c'est pas celui qui gagne 15 $ qui va virer l'économie, c'est celui qui en gagne 30.
En tout cas, ce ne sera pas à même les surplus d'Hydro-Québec, le 4 milliards qu'on a payé en trop, visiblement, puisqu'ils ne vont pas nous le rendre. Hein?
C'est non malheureux. J'ai fait 3 jours cette semaine. Je viens de recommencer à travailler là, ici au Québec. Là. Puis ça m'a donné 587 $ pour 37 heures. Puis ma dernière paye en Alberta, 37 heures, 1700 $.
Êtes-vous sérieux?
Où est le problème? T'sais, on a un méchant problème. Puis là-bas, en Alberta... Là, parce qu'il y a de l'abus. J'ai un de mes chums qui travaille pour une compagnie, il est retraité de la Kroger. Et puis là, il est retraité, puis il fait un voyage en Floride par mois. Depuis que le logbook existe aux États-Unis, ça lui donne 1200 piastres par semaine. Ça prend à peu près 7 jours et demi pour un Floride. Avant, ça en donnait 700-750. Mais là, depuis que le logbook est sorti aux États, là, il y a 400 piastres de plus pour faire le voyage.
Mm-hmm.
Pourquoi qu'au Québec, on n'est pas, ça monte pas les taux? faudrait que le transport soit réglementé. Il est là le problème. Tout le monde se coupe le cou.
Hey, c'est un bon sujet, ça, pour une discussion d'une heure, parce que je pense qu'on a besoin, nous aussi, de tous, le public, là, d'entendre ce genre de discours-là. Mario, c'est des affaires qu'on ne connaît pas. Là. La plupart des gens ne sont pas au courant.
J'ai beaucoup appris. Respect, Mario. Respect, respect. Il faut aussi penser au coût de la vie dans les différentes provinces canadiennes, mais c'est vrai que Mario, il fait runner l'économie puis il mérite une bonne part du gâteau, c'est sûr.
Exactement. Mais ça juste part.
Oui, oui.
Bon, ben, il nous reste 30 secondes. Fred, William, Miro, on va suivre votre dossier des stages rémunérés. On souhaite que les étudiants... Moi, je pense qu'il ne faut pas exploiter nos jeunes.
Lisez vos contrats, négociez ce que vous signez, puis essayez de négocier.
Ça va juste être une bonne pratique pour la vie.
Exact, exact.
Il ne faut pas exploiter les travailleurs, parce que souvent, ce qu'on pense, c'est que quand les gens sont dans la fonction publique, ah, qu'ils sont donc bien, mais il faut se rappeler que les employés du gouvernement, il y en a plus que la moitié qui sont à statut précaire. Puis à la SAC, c'est plus que la moitié également, puis ça prend 10 ans avant d'atteindre...
La SAQ, tu veux dire.
La SAQ, la Société des alcools, c'est ça. Donc, tu sais, des fois, on garde la pointe de la pyramide, mais il faut voir la pyramide au complet.
Tout à fait. Tant qu'elle n'est pas bâtie avec du cheap labor.
Avec des stages au Québec.
Ouais. Fred, tu veux la
rajouter? Oui, c'est que dans le fond, on doit travailler sur la compensation, mais également une loi spéciale, une loi, pardon, qui vient protéger les conditions des stagiaires au Québec. Ouais. C'est fondamental.
Quant à la loi spéciale, ce sont les facteurs factrices qui l'ont sur le dos maintenant. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler. À tout de suite.